Cité Radio. Il est 20h.
Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma avec aujourd'hui 5 films, des films bien différents, un peu comme souvent. Et moi, j'ai vu 2 comédies, une très franche, Nous les Lorrois de Florent Bernard, comédie française. Et puis, un film plutôt attendu, c'est la suite de la franchise SOS Fantôme. Quant à vous, commençons par toi, là aussi un film attendu.
Le gros blockbuster du moment, donc Godzilla X Kong, le nouvel empire, que l'on peut considérer peut-être comme une comédie involontaire.
Autant dire que tu en diras un peu de mal. Quant à toi, Guillaume, film français.
Oui, c'est une vraie fausse biographie, c'est Rosalie de Stéphanie Di Giusto.
Et ça pourrait être l'histoire d'un monstre, puisque c'est l'histoire d'une femme à barbe, mais le film en dit autre chose. Et quant à toi, Sophia, c'est un film brésilien.
Oui, il s'agit de Sans cœur, un film qui suscite, quant à lui, un peu plus de nostalgie.
Nous allons commencer avec la franchise SOS Fantôme, qui se poursuit donc avec des gros clins d'œil aux années 80.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Phoebe Spangler, je t'interdis de sortir.
J'ai un fantôme à chasser.
Faut-il avoir vu les précédents opus de SOS Fantôme pour s'installer dans une salle de cinéma et regarder SOS Fantôme, la menace de glace, dernier volet de la franchise initiée en 1984, donc soit il y a 40 ans. Alors c'est souhaitable tant il y a de clins d'œil à l'univers des années 80, jusqu'à d'ailleurs les nommer précisément dans le film comme une période insouciante, au moins vis-à-vis du climat. Mais année 1980 et année 2024, même combat contre les fantômes. Ce volet est la suite du précédent, SOS Fantôme, l'héritage, sorti en 2021 et tourné par le fiston d'Ivan Reitman, qui lui avait réalisé les deux premiers volets iconiques. Alors cette fois-ci, c'est Gilles Kinnan qui est aux commandes. Nous ne sommes plus en Oklahoma, mais bien au cœur de la chasse aux fantômes, puisqu'on réintègre la caserne des pompiers au sud de Manhattan, où est bien sûr garé l'improbable véhicule des chasseurs de spectres historiques.
Pour la première fois de l'histoire à New York, des gens sont morts de froid en plein mois de juillet.
C'est quoi ça?
Le frisson de la mort. Le pouvoir de tuer simplement par la peur. Vos artères deviennent des torrents de glace. Votre squelette se fracture. Et la dernière chose que vous verrez, ce seront vos larmes qui gèlent avant de couler.
Quoi? Tu veux dire qu'on peut véritablement mourir de peur? Trop cool!
Le précédent opus avait mis à plat les personnages. Nous avions affaire à une autre génération. Ça se confirme puisque nous suivons encore les deux jeunes rejetons de la famille Spengler et leur mère. Ils avancent donc sur les traces de papy. La première séquence ne fait aucun mystère puisque la nouvelle équipe, sans qu'on leur demande rien du tout, se met aux trousses de spectres vaguement farceurs. Mais ombre au tableau, les autorités ne reconnaissent toujours pas ces chasseurs de fantômes, si bien qu'ils sont accusés de tout casser en ville. Alors c'est là, j'avoue, la paresse d'un scénario qui oublie que n'importe quel smartphone est capable de capter le comportement d'un fantôme poursuivi par des chasseurs, surtout dans l'une des plus grandes villes du monde. Je rappelle que nous sommes à New York. Ainsi, on est en 2024, mais sans la vraisemblance. Mais doit-on vraiment la chercher dans une pareille production qui compte, en premier lieu sur la nostalgie, une recette éculée comme la course-poursuite pour emporter l'adhésion? C'est alors que j'ai décidé de ne pas m'attacher au scénario pour ne m'attacher qu'aux péripéties et aux enjeux dramatiques qui sont nombreux et à l'univers qui m'était proposé.
Il va encore faire très chaud aujourd'hui. Vigilance canicule dans le New Jersey où il doit faire au moins 38 degrés.
Alors on entend là dans la musique le petit clin d'œil nostalgique encore aux années 80 et puis ce titre Cruel Summer qui est ironique effectivement puisque New York est menacée de geler en plein été. Alors, il ne s'agit plus d'absorber n'importe quel petit fantôme visqueux, mais de lutter donc contre la menace d'un ancien spectre qui a le pouvoir de tout glacer. Et contre le retour de cette ère glaciaire, la nouvelle équipe va devoir faire équipe avec l'ancienne qui a toujours été en veille, en fait, et qui a continué de mener des recherches pour améliorer la lutte contre les fantômes et qui a même conçu un laboratoire pour les étudier. Et puis, de son côté, le personnage de Dan Aykroyd est transformé en YouTuber un peu paumé. Bon, là aussi, c'est un clin d'œil un peu générationnel. Le plan pourrait être au poil si Phoebe Spengler, la plus jeune des chasseuses de fantômes, ne trouvait pas un unique réconfort chez une adolescente passée dans l'au-delà. Et c'est là le premier degré d'un film qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Hein. Cependant, si les dialogues et les situations se veulent avant tout légères et drôles, les scénaristes et dialoguistes ont mis la pédale douce par rapport à ce qu'on pouvait quand même entendre dans les deux premiers volets des années 80, avec notamment le personnage de Bill Murray qui avait du répondant. Alors d'ailleurs, il revient aussi lui montrer sa tête, hein, comme dans le précédent volet. Il reprend du service aux côtés de Ernie Hudson, comme ça il ne manque que celui qui est mort, soit Harold Ramis. Dans le précédent film, il intervenait en spectre, mais là, ils ont choisi de s'en passer et de n'évoquer que son talent et son héritage. SOS Fantôme, la menace de glace n'est pas un mauvais virage, mais un virage tout de même, hein, pris avec les années 80, plus léger et rigolard. Là, je parle des films des années 80, hein, qui étaient plus légers et rigolards. La dose de petits fantômes injectés permet d'avoir son compte, surtout qu'il y a le retour du chamallow en version Rikiki Toumimi, mais un peu flippant quand même. Donc, on peut imaginer que ceux qui ne connaissent pas l'univers initial prennent aussi plaisir finalement à voir ce film, avec ses courses-poursuites, ses objets improbables, son charabia et sa drôlerie. Ce nouveau volet de SOS Fantôme, La Menace de Glace, est en salle depuis le 10 avril. Hirsutisme dans la France rurale du 19e siècle, traité au cinéma en 2024 avec Rosalie de Stéphanie Di Giusto.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Dans le paysage des femmes réalisatrices françaises, Stéphanie Di Giusto détonne un peu car il est quand même assez rare de rester aussi longtemps sans avoir fait un film alors que le précédent et premier était une impeccable réussite sur tous les niveaux. C'était il y a 8 ans, on découvrait son univers avec La Danseuse mettant en scène la Belle Époque comme on n'avait plus l'habitude de le voir sur nos écrans en grand. La Danseuse était déjà un portrait de femme qui se cherche par son corps, écrit son histoire avec son corps et qui se bat avec son corps. Et tout cela se retrouve encore au centre de son cinéma dans Rosalie. Alors on note que cette fois, on ne nomme plus le film d'après la fonction du personnage, mais on lui donne le nom de l'héroïne, et c'est bien légitime tant elle va lutter pour que, derrière sa différence, on puisse y glisser justement un nom, ou mieux, un prénom.
Faites pas ça. Ils vont nous éveiller.
Ce besoin de légitimité qui passe par l'affirmation de sa différence est intéressant car il est ici question d'une femme à barbe qui va être reconnue pour ce qu'elle est en totalité, et c'est exactement ce qui est au centre de notre film mettant en scène ce que l'on exploitait sous le nom de phénomène de foire, le bien nommé, si on peut dire, Frix, la monstrueuse parade de Todd Browning. Alors ce classique sulfureux de 1932 mettait en scène une troupe de ce qui était désigné comme étant des erreurs de la nature qui vont se rebeller contre les malversations d'une personne, elle, bien portante suivant les normes acquises de la bonne société. Mais qu'on ne s'y trompe pas. L'argument de vengeance n'est pas le centre névralgique du film de Browning, c'est seulement ce qui cristallise dans le troisième acte la détresse et la colère de ces pauvres êtres qui se font justice. Avant toute chose, Frix est probablement le plus beau film qui n'ait jamais été fait sur le thème de la tolérance et sur l'importance de ne pas juger un livre à sa couverture. Mieux, la couverture, qu'on l'aime ou pas, fait entièrement partie de l'ouvrage et il faudra l'accepter dans sa passionnante intégralité. Di Giusto a forcément cette référence en tête lorsqu'elle s'attelle au récit original de Rosalie, mais décide de mettre de côté tout ressentiment ou toute lutte violente de son personnage principal. Rosalie est donc une jeune femme dans la France de 1870 qui cache un secret de taille. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Alors de peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu'au jour où Abel, un tenancier de café acculé par les dettes, l'épouse pour sa dot sans rien savoir de son secret. Mais Rosalie veut être regardée comme une femme malgré sa différence qu'elle ne veut plus cacher. Alors en laissant pousser sa barbe, elle va enfin se libérer. Elle veut qu'Abel l'aime comme elle l'est, alors que les autres la réduisent à un monstre. Alors les grandes questions sont bien sûr là. Abel sera-t-il capable de l'aimer alors qu'il se sent déjà trahi de s'être marié à une femme qui découvre pour le moins originale ? Et survivra-t-elle à la cruauté des autres qui ne manqueront pas de lui faire réaliser à chaque instant à quel point elle est différente ?
Vous êtes comme vous avez peur.
À l'amour.
Basée sur la véritable histoire de Clémentine Delay, Rosalie se détourne de certaines conventions du film de monstres ou de personnes à caractéristiques plus ou moins déviantes en refusant une exploitation de cette figure hors norme ou de sombrer dans les travers d'un certain cinéma d'exploitation. Alors, plutôt habile sur papier, hein, alors qu'il s'agit justement d'un type de personne ayant été exploité dans des foires, hein, mais moins évident au final à l'écran. Car le cinéma étant l'héritier de ses arts forains, la nature extraordinaire de Rosalie aurait mérité pour le coup l'ampleur d'un spectacle de chapiteau. Alors, malgré une belle esthétique, hein, bien moins malgré cela impressionnante que celle de la danseuse car plus statique, Rosalie pêche par excès de pudeur, hein, car si l'intention de mettre l'amour au centre des scènes de son personnage principal est tout à fait louable, le résultat est en demi-teinte car à force de ne montrer que la tendresse de Rosalie, on se lasse de la voir dépeinte comme une sainte, hein, ne s'énervant jamais alors qu'elle subit les brimades ignobles en continu. Alors pas sûr que hein, du coup le message universel d'acceptation paraisse totalement crédible, ce qui rendait Frix lui, hein, qui était totalement revendicateur de son aspect forain, mémorable hein, au point de devenir inoubliable dans la mémoire collective. Alors à voir ce qu'il en sera pour la pauvre Rosalie.
Alors tu parlais du film Frixe, mais on peut le renvoyer à aussi un autre film.
Un film de Marco Ferreri de 1963, Le mari de la femme à barbe, qui est un film excellent, et qui était ressorti en salle il n'y a pas très longtemps.
Un film avec trois fins qui avait fait scandale lors de sa sortie
en compétition. C'est la marque de fabrique de
Ferreri, hein, oui. Oui. Et avec Annie Girardot. Mais moi, j'avoue que je l'ai pas vu. Et en revanche, j'ai vu Rosalie, qui effectivement est une femme qui est complètement renvoyée à sa solitude, mais qui finit par aller au-delà, à se dépasser, puis à dépasser effectivement ce qu'on lui renvoie, et qui trouve des solutions jusqu'à se dénuder, ce qui est plutôt une vision, je dirais, contemporaine. Enfin voilà, un regard contemporain en tout cas de la réalisatrice, voilà, sur l'émancipation d'une femme.
Je trouve que c'est dommage que justement on reste que sur un aspect extrêmement positif. Ce personnage est beaucoup trop positif en fait. Il est beau, hein, mais il est beau à la base aussi pour nous en tant que spectateurs, parce qu'on la voit dès le départ et on voit quelle belle âme c'est, bien évidemment. Mais le problème, c'est que elle semble vraiment inatteignable hein, par rapport à tout ce qu'elle subit, entre autres par Benjamin Biolay, toute sa clique de bouseux. Hein, donc,
lui, c'est pas. Attends, Benjamin Biolay est pas le bouseux, mais l'industriel qui a embauché tout le village. Donc voilà, il a une mainmise sur les habitants et il voit cette femme comme une sorte de danger. Quoi. Nous parlions de Rosalie, qui est en salle depuis le 10 avril. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux, Manu, que tu mettais un plus à Kung Fu Panda quand tu n'en mettais aucun à Dune 2. Mais,
ah oui.
Mais j'ai vu aussi que le Godzilla X Kong, le nouvel empire, était bien moins recommandable finalement que le dernier film de Denis Villeneuve. Je me suis dit, ouf, allez, nous parlons de ce film.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Alors attention, hein, critique purement subjective, hein, parce que c'est le genre de film qui peut plaire et peut marcher. Voilà, je préfère le prévenir avant, donc il y aura beaucoup de jeux. Voilà. Donc naïf comme je suis, comme dirait Yoda, après chaque désillusion, lorsqu'un nouveau Jedi se révèle en dessous de ses espérances de vieux sages. À chaque annonce d'un nouveau Godzilla américain, déjà le cinquième, hein, si on inclut le Roland Emmerich, j'éprouve la sensation puérile d'un gamin devant une vitrine de magasin exhibant les jouets les plus clinquants, celle d'une irrésistible envie de me précipiter dans une salle pour voir le plus fascinant des monstres de l'histoire du cinéma, issu de l'imaginaire d'un grand réalisateur japonais, hein, Ichiro Honda. Et à chaque fois, le constat est sans appel. Je sors alors non pas déçu, mais affligé par le résultat. Alors pour être honnête, hein, je m'en doutais un petit peu, mais une partie de moi ne voulait pas l'accepter, préférant le déni au réalisme. Pourtant, je n'avais strictement aucun souvenir du précédent, que j'avais pourtant chroniqué à Cinérama, à tel point que lorsque apparaît à l'écran donc Rebecca Hall, je me suis dit, tiens, chouette, elle joue dedans, j'adore cette actrice, ayant zappé qu'elle était déjà dans le premier Godzilla X Kong. Alors, le fait de ne pas s'en souvenir, en revanche, n'a rien de très handicapant pour suivre une histoire, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Les scénaristes ne se sont visiblement pas cassés les ménages en ballant vite fait. J'espère pour eux un scénario alors un peu épicé de dialogue alors qu'ils sont soit débiles, soit incompréhensibles dans un jargon pseudo-scientifico-mystique.
Depuis l'aube de la civilisation, on a longtemps cru que la vie ne pouvait exister qu'à la surface de la planète.
Mais peu importe, hein, les problèmes de scénario, hein, les problèmes ne viennent pas de là. Hein. Donc pour faire simple, hein, si on doit résumer l'histoire, hein, Kong et Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace secrète qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie de l'espèce humaine. Alors ils vont devoir affronter plein de créatures, alors là où les fans peut-être attendaient sans doute une confrontation. Alors comme le film n'est qu'une accumulation de problèmes, hein, je ne vais pas tous les énumérer un par un, ce serait bien trop long, mais la première déception vient du rapport inéquitable entre les deux monstres, Godzilla étant clairement sacrifié au profit d'un Kong ultra présent, figure alors plus marquante, c'est vrai, dans la culture américaine, alors qu'il est nettement moins intéressant, je dirais même d'un point de vue politique et philosophique, hein, et même écologique. Et moi, je voulais regarder aussi. Hein. Alors, la désacralisation d'un mythe pour le seul plaisir du divertissement n'est pas un problème en soi, encore faut-il réellement divertir, et ce qui n'est pas vraiment le cas, hein, le film étant faussement généreux, malgré la débauche d'effets spéciaux techniquement au point, mais d'une laideur abyssale. Alors, Godzilla X Kong, le nouvel empire, affiche même à certains moments une timidité rageante là où il fallait foncer dans le tas, à l'image d'une séquence où démarre alors un morceau de Kiss, arborant donc un Kong bien vénère pour ne rien faire du tout avec, arrêtant net la séquence au moment où ça devenait un peu jouissif, laissant un sentiment de frustration énorme. Alors si les 30 dernières minutes apportent son petit lot de satisfaction à un public, on va dire, pas très exigeant, l'ensemble procure quand même un ennui tenace et une impression de négligence, alors récurrent depuis quelque temps dans les blockbusters contemporains. Hein. On a une sensation bizarre d'en regarder, alors je fais pas de procès au cinéma d'animation, mais vraiment un très mauvais film d'animation, tant le récit souffre d'une absence totale de personnalité. Alors ils sont physiquement à l'écran, mais jamais intégrés à la narration, alors occupant vraiment, je dirais, un statut de simple spectateur et résolvant comme ça de temps en temps, sans aucune justification, des énigmes cryptiques dont on se moque royalement.
Ce monde renferme plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer. Miracles I get. Still
now and then. Alors Adam Wingard, hein, je voulais dire Ringard, mais je crois que ça a déjà été écrit, donc ma punchline elle est pas bonne. Hein. Alors il enchaîne en fait les navets, hein, au cœur d'une filmographie bien terne, hein, ayant juste, je dirais, fait un tout petit peu illusion avec son premier long métrage You Are Next. Alors aujourd'hui il n'est qu'un mercenaire, hein, de plus détruisant encore davantage une franchise qui devrait quand même s'arrêter avec cette pitoyable suite. Hein. Alors pour finir sur une petite touche positive, hein, deux éléments m'ont amusé. Alors le fait que Kong communique avec la petite fille, alors c'est était déjà Khan en premier en langue des signes. Ça y est, ça y était déjà dans le précédent, mais je ne me rappelle plus comment il a appris la langue des signes. Et puis ensuite, l'apparition de Mothra, voilà, la protectrice bienveillante de la Terre, qui m'a un peu ému, même si elle est nettement moins élégante que dans le génial Mothra contre Godzilla, peut-être l'un de mes préférés de toute la série.
Elle est déjà dans un autre film ? Mothra, elle est apparue dans le précédent ou celui d'avant ?
Comme je dis, je ne m'en souviens absolument pas. Et d'ailleurs, je referai une chronique au prochain Godzilla l'année prochaine et je serai encore surpris de voir Rebecca Hall à l'écran.
Attends, laisse-leur deux ans, histoire qu'ils sous-écrivent le scénario.
Ce film, Godzilla X Kong, le nouvel empire, est en salle depuis le 10 avril. Nous parlions en début d'émission d'un film qui était la suite d'une série engagée il y a 40 ans. Depuis le 10 avril, un film sorti il y a 20 ans réapparaît sur les écrans. Ce film, c'est Les Choristes de Christophe Baratier. Alors, nous n'en parlerons pas, mais nous allons écouter ce qui a fait une partie de son succès, la bande originale.
Sentier de gloire.
L'affiche a de quoi surprendre. Deux enfants qui touchent une baleine échouée dans une forêt. Nous parlons de Sans cœur, film brésilien.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
La réalisatrice et le réalisateur brésilien Nara Normandier et Thiao ont tous deux déjà remporté pour leur court-métrage du même nom, Sem Coração, Sans cœur, le prix Illy. Oui, il lit comme le café, à la quinzaine des réalisateurs, donc cette section parallèle du Festival de Cannes, en 2014 déjà. Alors, 10 ans plus tard, c'est la version longue qui est développée et proposée au grand public, toujours avec Eduarda Samara, l'actrice qui interprète Sem Coração, le personnage appelé Sans cœur dans le film, et qui avait commencé sa carrière donc dans le court-métrage. À ses côtés, en revanche, tous les acteurs et actrices du long-métrage sont des novices. C'est le cas notamment de Maya Devic, qui incarne Tamara dans le film, la véritable protagoniste principale. Cousine de la réalisatrice, elle fait ses débuts au cinéma dans ce film. L'intrigue se situe sur la côte nord-est du Brésil, dans un village de pêcheurs, sans qu'on ait précisément de détails sur un lieu à proprement parler. Cet environnement jouit en tout cas d'une vaste plage, sauvage, paradisiaque, et on comprend que le rapport de chacun à l'océan est primordial, au centre de toutes les activités, de loisirs, d'oisiveté, de rêveries presque psychanalytiques, mais aussi de manière plus pragmatique, l'océan fait vivre. Il sert de gagne-pain via la pêche, pour Sans cœur et son père notamment. Dans ce cadre idyllique, la réalisatrice et le réalisateur posent les bases d'un récit doux amer fait de ressac. On croit embarqué pour la chronique d'un été où l'on suit les flâneries et déambulations d'un groupe de grands enfants un peu livrés à eux-mêmes, livrés aux éléments naturels dont ils profitent. Ils traînent ensemble dans la torpeur de l'été, les ardes au soleil, se baignent, font des bêtises. Mais les vagues de douceur et d'innocence se fracassent souvent sur elles-mêmes lorsqu'elles rencontrent les nombreux obstacles auxquels ces ados, à l'aube de l'âge adulte, sont confrontés.
Quand Tamara va au Brésil, elle va esquecer da gente, né?
Claro que não, gente. Vocês são amigos dela, é? Nunca vi vocês juntos.
Sans cœur est un teen movie pas comme les autres qui ondule sinueusement comme une marée entre réalisme et onirisme. Mais comme toute bonne intrigue adolescente, on retrouve un socle de certaines thématiques qui servent de phare pour naviguer la houle. Parmi elles, l'amitié comme valeur au cœur de l'existence, la famille également, la transmission filiale, le rapport donc aux frères et sœurs, aux parents, qu'ils soient doux ou plus conflictuels, et puis bien entendu, le désir, la découverte de la sexualité et l'amour. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que toutes ces thématiques classiques pour un film sur l'adolescence ne donnent pas lieu à des caricatures faciles. Elles sont toujours abordées avec une forme de réalisme sensible et beaucoup de nuances. C'est précisément le cas pour l'histoire que les deux protagonistes, Tamara et Sans cœur, vont vivre. Elles qui sont les deux vectrices de moments chimériques dans le film. Une forme de connexion qu'elles entretiennent avec les éléments naturels, avec l'océan et ses créatures, et qu'elles semblent partager au-delà de leurs milieux sociaux. À chacune de ces manifestations oniriques, c'est la violence du monde qui vient s'écraser contre leur innocence. L'homophobie qui réprime les différentes identités, le racisme, le mépris de classe, la pauvreté, la délinquance, le deuil et la mort aussi.
Tu veux voir une chose que je n'ai jamais vue.
La photographie est très travaillée avec des couleurs chatoyantes, un peu délavées, qui invitent au songe et convoquent assurément des échos nostalgiques chez le spectateur, ce qui est parfaitement approprié hein, lorsque l'on situe le récit à un moment aussi sensible et charnière de l'existence que le dernier été de l'innocence, à l'orée du passage à l'âge adulte et dans le cas de Tamara, du départ vers Brasilia pour ses études. Les corps sont filmés de près, la caméra paraît presque intrusive dans ces bulles d'intimité où ces jeunes adultes en devenir ont bien davantage des airs d'enfants. Tamara, notamment, n'a clairement pas l'air d'avoir 18 ans, ni même 16. On pourrait se dire physiquement qu'il s'agit d'une collégienne. Alors peut-être qu'une forme d'authenticité brute émane du fait qu'ils ne soient pas des acteurs et actrices professionnels. Peut-être que cela participe à les rajeunir, à leur donner ce supplément de fraîcheur. Mais c'est surtout la qualité épidermique de la prise de vue qui cadre beaucoup les peaux, douces, brillantes, salées, mouillées, gorgées de soleil, comme pour souligner en fait le caractère tactile et sensoriel de l'enfance. Mais ce faisant, elle se part d'un regard un brin voyeuriste sur leur sensualité naissante. En somme, on a un portrait sur l'adolescence assez universel, très tendu et nuancé, qui dépasse les bornes de la jeunesse brésilienne et laisse à la fois sur la rétine une douce impression de soleil rasant et en bouche cette amertume caractéristique après avoir bu la tasse.
Sans cœur, petit film brésilien, est en salle depuis le 10 avril. Un mari se voit quitter, entreprend un week-end de la dernière chance. Nous parlons de Nous, les Leroys.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui,
Cinérama.
Et j'ai horreur des questions.
Avec votre budget, si vous voulez faire des activités tous les jours, je vous proposerais de plutôt partir sur Bali.
Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique.
Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. C'est à 19 minutes de Poitiers. Et il y a une attraction où on traverse la Vienne avec des sièges qui bougent dans le cinéma. C'est très bien fait.
Vous avez un pitch qui est donc celui-ci, je vais vous le donner. On vous dit au préalable qu'il s'agit d'une comédie française. Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Et dans une opération de la dernière chance, aussi audacieuse qu'invraisemblable, ce sont les mots du pitch, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Alors d'après vous, comment ça va se terminer ?
Mal. Non, je sais pas.
Vous pensez
c'est
que ça se termine ?
C'est une comédie, après tout. Non, ça se termine bien.
En théorie, ça se termine
en théorie.
Bien. Ouais. Alors, indice quand même, il n'y a pas Christian Clavier, ni Didier Bourdon, et ni même Danny Boone. Donc voilà, peut-être que ça pourrait se terminer pas si bien que ça.
Il n'y a même pas Franck Dubosc ?
Non. C'est parce qu'il y avait une grande confiance envers le réalisateur Florent Bernard que j'ai tenu à aller voir Nous, les Leroys. Alors, il s'agit du premier film de Florent Bernard qui a une vie de scénariste et de podcasteur pour l'émission Floodcast. Côté scénario, il s'est distingué avec l'émission de Canal+, La Flamme et Le Flambeau, mais aussi avec un film de genre comme l'excellent Vermine, sorti en fin d'année. Et je n'ai pas été déçu par cette comédie qui ménage autant de situations drôles que de moments de tension, et on ne va pas dire dramatique, mais émotionnel.
Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer de votre papa ?
Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors, tu veux me quitter, c'est ça ?
Je veux pas qu'on se déteste pour autant...
Non, écoute, ne sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi.
Non, c'est toi.
Hein ?
Sandrine Leroy, excellente Charlotte Gainsbourg, en a gros sur la patate et elle assure bien le coup avec ses enfants. Elle choisit bien son moment car le plus grand des ados part pour la fac et la plus jeune a 2 ans à tuer chez les parents, donc pas grand chose. Pour Christophe Leroy, joué par José Garcia, c'est autre chose. Il n'a rien vu venir et ne veut pas la voir partir. Il assure à sa femme que si à l'issue donc du week-end, elle veut partir, elle le pourra. L'idée de Christophe, c'est de retourner sur des lieux qui ont fait l'histoire du couple, qui a permis ensuite à la famille d'exister.
J'ai réfléchi toute la nuit.
Ah merde.
Non, pas « Ah merde », justement. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années.
Papa, c'est toi, fils de pute ?
Va te péter la gueule, là, tu crois ?
Mais non, c'est un quiproquo. Mais... Oh putain, il a un marteau. On voudrait un dessin de nous quatre, s'il vous plaît.
C'est 80 euros.
Vous êtes banquier ou quoi ?
Non, mais ça va, je vais les mettre, moi.
Ça va finir à la poubelle.
Je vous entends, hein. Je suis juste à côté.
Imagine, le week-end, il se passe pas comme t'as prévu.
Ouais, genre si elle te largue.
Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps ?
Alors on l'entend, pour les enfants, c'est pas la situation idéale de voir des parents qui se déchirent et qui tentent de se rabibocher. Ces adolescents, le réalisateur prend le temps de donner leurs contours et de les faire exister. Le grand ne sait pas dire « je t'aime » et s'engager. Sa sœur cherche à se faire remarquer. Ils ont donc eux aussi leur lot de problèmes et ne voient pas pourquoi ils se mêleraient des histoires de cœur des parents, surtout dans une société où un quart des familles sont monoparentales.
On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple.
C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple.
Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille.
Mais putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands ?
Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée.
Le réalisateur a soigné son scénario, les séquences s'enchaînent facilement, à l'exposition du burn-out de la mère Leroy succède la tentative de sauvetage du père Leroy, et la résolution du problème après, évidemment, de nombreuses péripéties mettant en scène des personnages alors violents, imbus d'eux-mêmes, atypiques, maladroits. C'est toute une gamme de comiques qui est à l'écran avec des visages connus par la jeune génération habituée aux vidéos sur Internet. Pour le socle d'acteurs, le réalisateur a quand même fait confiance à deux valeurs sûres avec Charlotte Gainsbourg, qui a marqué de sa présence quelques comédies françaises, et José Garcia. Les deux rendent ce Nous, les Leroy encore plus agréable. le long métrage a remporté le grand prix à l'Alpe d'Huez. Nous, les Leroy n'a rien d'une comédie facile avec ses changements de rythme, de tonalité entre humour et émotion. Pour raconter véritablement une histoire, exploiter un sujet, ce film transcende la comédie paresseuse qui finirait par perdre son sujet et ses personnages à force de vouloir nous faire rire à tout prix. Ce film, Nous, les Leroy, est en salle depuis le 10 avril.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec une interview, ce sera celle de Stéphane Desmoustiers pour le film Borgo, et nous parlerons d'un film attendu, Civil War, et quant à vous,
un documentaire.
Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colomba. Ne manquez pas Tout en auteur, l'émission 100% littéraire de Cité Radio où je reçois de nombreux écrivains et écrivaines locaux et nationaux. Durant 55 minutes, nous parlons avec eux de leur parcours et surtout de leurs actualités afin de vous faire partager l'amour des mots et de vous donner l'envie de découvrir leurs œuvres. À bientôt.
Tout en auteur avec Guillaume Colomba, c'est tous les jeudis et samedis à 19h sur Cité Radio, la positive info.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Quand on visite un appartement, on regarde les dimensions et si tout va bien, on se projette sur ce qu'on pourrait faire dedans. Quand on visite une œuvre musicale, c'est presque pareil au mur porteur près. Mais quand on revisite, c'est qu'on veut aller encore un peu plus loin dans la projection et pourquoi pas même envisager quelques aménagements, le coût des travaux ou encore le recours aux artisans qui vont pouvoir nous accompagner dans le réaménagement des lieux. En musique, c'est presque pareil, on peut même revisiter le répertoire par l'improvisation, revisiter la pédagogie par la création, revisiter les Jeux Olympiques par le piano. Métaclassique est cette semaine installé dans l'auditorium du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis pour un enregistrement en public d'un numéro revisité dans le cadre de la deuxième biennale de piano collectif. En partenariat avec la Maison de la Musique Contemporaine, on posera la question de la création dans les conservatoires, dont on va pouvoir entendre quatre applications directes avec les étudiants des conservatoires de Saint-Denis et de Clermont-Ferrand qui revisitent le concerto en sol de Maurice Ravel, les élèves du conservatoire de Pierrefitte qui revisitent quelques disciplines olympique, les élèves du conservatoire du 15e arrondissement à Paris et pour commencer, 5 pianistes du conservatoire de Brest dans 3 sonates avec interlude improvisé de John Cage.
Thank you.
Bonjour Simon.
Bonjour.
On t'a entendu jouer la première sonate pour piano préparé de Cage et aussi jouer un interlude à la fin. Qu'est-ce que tu préfères ?
Très difficile à dire parce que la sonate, je m'y suis attaché de plus en plus au fur et à mesure que je la découvrais. Donc maintenant, on va dire qu'elle résonne d'une manière particulière pour moi. Mais c'est vrai que ces improvisations, c'est aussi des moments qu'on partage et qui sont vraiment privilégiés, je trouve, avec Lola et Maywen. En particulier, c'était incroyable.
Ce qu'on a entendu, c'est finalement une composition, c'est-à-dire que c'est une improvisation que vous avez fini par stabiliser ?
Non, c'est de l'improvisation vraiment totale. Là où on peut parler peut-être de préparation, c'est qu'on a fait un travail sur les formes, mais qu'on n'a pas trop respecté au final. Mais c'est vrai qu'on a quand même... on avait étudié le fait de travailler des improvisations en se disant que, par exemple, on prenait un motif et on choisissait ensuite de le répéter plus tard dans l'improvisation. Mmh. Et puis ensuite, par exemple, ça c'était si on faisait une forme donc avec une sorte de refrain, puis des couplets qu'on appelle forme rondo. Donc on a plus ou moins fait un peu ça.
Et l'idée de faire des rondos vous est pas venue de Cage, elle vous est venue de vous ?
Ouais, c'est des discussions qu'on a eues avec notre professeur.
Avec Marine Lombard.
En travaillant avec ouais. Marine.
Lola, toi tu préfères les sonates ou les interludes ?
Alors moi j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment jouer une sonate en entier pour l'instant. Oui. C'est en projet, c'est en cours, mais donc forcément pour l'instant je crois que je préfère les improvisations.
Ok, et quand vous improvisez c'est forcément quand même inspiré des sonates, est-ce qu'il y a une différence entre imiter et composer ?
Je pense que oui.
Vous avez essayé de garder du Cage dans tout ça quand même ?
C'était assez intuitif. C'était pas conscientisé. Je me suis pas dit il faut absolument que je reste dans l'univers.
Ouais.
Mais intuitivement, forcément, on reste un peu dans les sonorités parce que déjà le piano est préparé de la même manière et on a envie de faire comme ça, quoi.
Je vous ai demandé à vous cinq de réfléchir à une définition de la forme et la consigne que vous a transmise votre prof Marie de Lombard était de ne pas révéler avant maintenant les uns aux autres votre définition de la forme. Alors je sais pas, Kylian, tu veux commencer ?
Bon. Ouais, ok. Alors, pour moi j'ai mis « En musique, la forme est... » le procédé avec et par lequel les différentes idées musicales d'une même pièce sont agencées et qualifiées.
Donc c'est un procédé d'agencement pour toi ?
Ouais.
D'accord. Lola ?
Moi j'avais écrit « La forme, c'est la manière dont on organise et dont on mène un morceau, ça pose et ça installe des repères et ça crée de la cohérence. Il y a des majuscules, des virgules, des points. »
C'est encore une affaire d'architecture cette histoire quand même.
Un petit peu,
ouais,
oui.
Ouais. Et Simon ?
Du coup, je pense que ça reprend un petit peu ce qu'on dit Kylian et Lola. J'ai écrit un truc un petit peu plus long.
Ouais.
Je peux le lire
oui, bien
ça
sûr.
Va
on est ensemble.
Donc, alors, je suis parti du fait qu'on dit souvent qu'une œuvre qu'on apprécie, qu'elle a le fond et la forme. Alors le fond, qu'est-ce que c'est ? C'est le sens profond d'une œuvre d'art. C'est la signification qu'elle peut avoir, ou le message, ou la finalité. Mais donc dans ce cas, la forme, qu'est-ce que c'est ? C'est le socle qui va permettre à ce fond d'exister. Donc ça va être la structure, la fondation, un peu comme Lola l'a dit. Et c'est ce qu'il y aura aussi de visible en premier, la forme. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un met les formes, on peut dire qu'il présente bien. Donc c'est aussi ce qu'on voit en premier. Partant de là, ce qu'on appelle la forme en musique savante, donc la structure, donc comme on disait tout à l'heure, par exemple rondo ou forme strophique ou forme sonate, c'est un peu réducteur. Donc la forme, ce serait plutôt tous les choix qui s'imposent à un compositeur avant qu'il se mette à composer son œuvre. Donc il doit choisir quelle formation instrumentale, mais aussi quelle tenue pour les interprètes. Est-ce qu'il y aura la présence d'une sonorisation? Est-ce qu'on va arranger les instruments comme sur le piano comme pour Cage? Donc plein de choses en fait, j'oublie plein de choses.
Mais à t'écouter, c'est plus de l'ordre de l'architecture de l'intérieur que d'architecture quand on écoutait les définitions de Kylian et Lola.
Alors pour moi, donc en fait, c'est une affaire de choix, la forme.
Mais des choix structurels ou des choix...
Justement, c'est tous ces choix-là qu'on va faire, qui vont permettre ensuite, et j'y viens, une fois qu'on a fait tous ces choix, là, l'inspiration, on va pouvoir parler, et on va exprimer quelque chose qui est presque primitif, presque primaire, qui va être la chose qu'on a en nous, en fait, qui a besoin de sortir, et que qu'un compositeur ou qu'un artiste a besoin d'exprimer. Et la forme, c'est donc extrêmement important pour l'artiste, parce que c'est ce qui va permettre à ce fond de sortir. J'ai presque fini. Pour le public, c'est super important aussi, parce que sans la forme, qui lui donne des repères, elle ne peut pas décrypter l'œuvre, elle ne va rien comprendre, et donc elle ne pourra jamais saisir le fond. Donc pour conclure, en fait, cette forme pour moi, pour résumer, c'est en quelque sorte le pont ou le lien qui fait la liaison entre le compositeur puis l'interprète, puis entre l'interprète et le public. Donc en fait, ça sert de lien. Donc grâce à la forme,
c'est intelligent.
On peut faire des pratiques collectives. Voilà.
Ah, sinon, ce ne serait pas possible. Quand tu es à la gauche de Simon et que tu t'engages dans une suite d'accords plaqués, est-ce que tu sais d'avance combien il y en aura ?
Je pense qu'il y a un sentiment musical qui fait que je ne le sais pas, mais ce qui va sortir sera logique. Enfin, ça créera quelque chose qu'on peut entendre et qui était peut-être la chose à faire.
Donc, la fin de ce geste-là va dépendre d'une justesse que tu trouves dans le moment présent.
Oui, et je pense que c'est ce qu'on appelle l'écoute.
Et qu'est-ce qui reste de Cage à ce moment-là ?
On l'a dit à la préparation. On est resté dans l'ambiance aussi de Cage. Oui.
Une ambiance. Et alors, ta définition de la forme ?
Oui. Alors, forme de point non féminin. alors, j'ai fait une courte définition et après je dis deux, trois trucs. Donc, ma définition pour la forme, ce serait agencement du temps dans l'œuvre musicale. Si on parle de la forme en musique précisément et pas ouais. En généralité en art. Et du coup, il y a plusieurs éléments qui peuvent la constituer. La distance ou la proximité assumée entre des éléments musicaux, la vitesse d'avènement des moments musicaux, la manière de rompre, la manière de continuer, la force de l'illusion d'unité, la résistance de la première césure et la flexion du dernier geste.
Et ça, c'est une espèce de programme, quasiment ?
Non, c'est des fragments, mais...
C'est des possibilités, en tout cas, pour produire la forme.
Oui, ces éléments-là, c'est peut-être des paramètres ou des choix, comme tu disais, Simon, qu'on fait quand on compose, notamment.
Et quand on improvise aussi. Donc.
Quand on improvise, je pense qu'on a cette conscience-là, on a l'écoute. Et comme on dit en impro, il y a la micro-écoute et la macro-écoute. Et notre corps, il sait, il a conscience de la forme. Mais j'ai l'impression qu'en impro, on découvre la forme à la fin, alors qu'en composition, on fait les choix au début.
Peut-être. Marie, tu as pris ta définition de la forme avec toi.
J'ai d'autres éléments que Mewen pour la forme. Et moi, ce qui me parlait, c'était plus tout ce qui était dans la répétition, le développement d'un élément, la variation, les contrastes. Et ce que j'aime bien dans la forme, c'est que ça fait appel à la mémoire, qui peut prendre des repères, qui peut oublier, qui peut douter, mais qui se souvient aussi de temps en temps. Et la forme, elle nous fait passer par tous nos états, et c'est un parcours qui plaît à certains et qui ne plaît pas à d'autres. Mais on arrive toujours à bon port à la fin, donc tout va bien.
Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de Mewen, qu'elle serait déterminée au début quand on compose, alors qu'elle se détermine qu'à la fin quand on improvise?
Ça, je suis entièrement d'accord, oui.
D'accord.
C'est compliqué de prévoir quelque chose quand t'improvises, de prévoir une forme. Ça peut très bien marcher comme ça peut...
J'avais l'impression que vous aviez quand même une espèce de canevas dans vos impros, non?
Non.
Ah non. Bravo alors. Ça donnait l'impression d'un chemin balisé quand même.
Enfin... Eh ben tant mieux, mais...
En fait, on avait réfléchi donc à plusieurs formes que ça pourrait prendre éventuellement. On se disait que ça pouvait soit être une forme rondo, donc avec un refrain et des couplets, soit être une forme strophique, où on répéterait plusieurs fois, à chaque fois, une même strophe, plusieurs fois. Mais c'était pas prévu.
D'accord.
On se disait, sur le moment, on sentira ce qu'on a envie de faire.
Mais il y avait un
et
petit panel pourrait, de possible.
Et ça pourrait être ça, mais il y avait un petit panel, mais qu'au final, on l'a pas vraiment respecté, tous les trois, à la fin. Donc, en fait, tout était possible.
C'est un panel pour mieux dévier.
Pour se rassurer aussi, je pense.
Ouais. C'est-à-dire ?
Pour se dire, on a une possibilité, on peut se retrouver, on sait qu'on est d'accord sur des formes possibles, mais c'est pas grave si on part sur autre chose, quoi. Mais c'est rassurant d'avoir c'est pas assez confortable de savoir qu'il y a des possibilités sur lesquelles on retombe, quoi. On retombe sur nos pattes, quoi.
Puis avec Mewen, on peut jamais faire ce qui est prévu.
Il y en a qui sont plus perturbateurs que d'autres.
Oui.
Forcément. Merci beaucoup à vous cinq.
Génial.
Alors, je vais appeler au micro un groupe composite, composé donc de Dionysiens et de Clermontois. Ce mot revisité de Fabien Caïto, si je comprends bien, il vient de toi.
Voilà, je ne sais pas, parce que nous, à Saint-Denis, il n'y a rien qui est individuel. Tout est collectif ici, vous l'aurez compris.
Même les définitions des mots, donc.
Même les définitions des mots qu'on va donner en hockey, donc c'est un mot chacun son tour. Non, tu voudrais une définition, David ?
Ouais, c'est d'abord une pratique pédagogique.
Ouais, c'est une pratique pédagogique. J'ai envie de revendiquer trois héritages. Premier héritage, Alfred Cortot, un grand pédagogue et pianiste du début du XXe siècle, enfin première moitié du XXe siècle. Français, qui, moi, je l'ai connu à travers, je n'ai pas connu du tout évidemment, mais je l'ai connu à travers mes profs qui me donnaient les éditions Cortot, des études de Chopin. Et dans ces éditions, en fait, il prend chaque passage et il crée des exercices pour chacun des passages. Et pour moi, ça, c'est une démarche pédagogique énorme et on essaye modestement de faire un petit peu ça à Saint-Denis. Et donc, on crée des exercices, donc on crée des choses déjà à partir de chaque passage d'une œuvre. Deuxième héritage que j'ai envie de revendiquer, c'est Berlioz qui dit « créer, c'est analyser ». Et dans l'idée de revisiter, enfin du revisited ou revisited d'ailleurs, on ne sait toujours pas comment on le dit, ça c'est le problème du collectif, on part d'une œuvre phare du répertoire de piano, de piano concerto, de tout ça, et on l'écoute et on en fait une première analyse affective et puis ensuite une analyse musicale et on se dit tiens qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qui est important dans cette œuvre pour en faire une création. Et puis troisième et dernier héritage, Courtag pour qui vous savez qu'il a créé cette méthode pédagogique qui s'appelle les yatécoques, les jeux, et en fait Courtag il nous rappelle toujours cette polysémie du terme jouer, et jouer c'est jouer d'un instrument bien sûr, et donc c'est le travailler, mais jouer c'est jouer aussi avec, et donc l'idée du revisited c'est aussi c'est jouer Ravel un petit peu modestement, mais aussi jouer avec Ravel.
Thank you.
Catherine Andronic, comment est-ce que tu as travaillé Ravel ?
Comme l'a très bien mentionné Fabien, il y a tout un travail. Il y a eu tout un travail d'abord d'analyse.
L'analyse, ça veut dire donc de mettre les doigts dans la partition et de repérer ce qu'on peut découper.
C'est quelque chose qui me semble important personnellement. C'est un revisited. Ce n'est pas une copie d'abord. C'est avant tout une création. Donc, bien sûr, c'est repérer des éléments caractéristiques de la pièce, mais aussi des passages, des notes, des enchaînements qui nous plaisent d'abord. Collectivement, bien sûr, chacun son petit passage, chacun, c'est les goûts et les couleurs, tout à fait. Et après ça, c'est le travailler, à l'aide de nos profs, bien sûr, avec des exercices techniques, avec collectivement, bien sûr, des travails d'enchaînement, de compréhension. Et voilà.
Donc il y a une étape où vous décidez ce que vous allez garder, en quelque sorte, de Ravel, et puis une étape où vous décidez de comment vous allez le transformer.
D'abord, c'est trouver l'élément musical avant tout, et ensuite, c'est en faire quelque chose.
Lison Berger, toi tu es à Clermont-Ferrand, ça veut dire que tu as été associé à cet exercice à distance, on pourrait dire. Tu es élève d'Aurélie Casalegno qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc ce que je vais spécifier, c'est que vous allez entendre une version du concerto en sol, donc celui pour demain de Ravel, dont le premier mouvement a été revisité par les étudiants de Clermont. Le deuxième mouvement est en commun, travaillé et par Clermont et par les Dionysiens, et puis le troisième mouvement par les Dionysiens. Comment ça s'est passé ?
D'abord, on a écouté plusieurs fois la pièce avec mon binôme. On a essayé de repérer des passages qui nous plaisaient, mais on a écouté la version orchestrale pour avoir une vision un peu plus globale de ce que c'était le concerto en sol. Et après, on a choisi du coup des passages, parce que c'est un mouvement assez long, il fait plus de 10 minutes. Et on a choisi quelques passages, 4 passages qui nous plaisaient. Et on a essayé de les revisiter à notre manière. Donc il y a certaines parties qu'on a gardées presque à l'identique, notamment le thème qu'on a finalement étoffé, mais qu'on a gardé presque à l'identique par rapport à la pièce originale. Et il y a des fois, on a gardé que simplement la tonalité, ou simplement une impression, ou simplement, par exemple, un mouvement de harpe, où on a essayé de trouver quelque chose de le plus ressemblant possible. Et du coup, en gardant dans les cordes, dans le piano, qu'est-ce qui pouvait sonner le plus comme une harpe, voilà.
Donc là, c'est plutôt c'est ça, le geste instrumental qui s'inspire d'une impression au-delà de toute considération de thème ou même d'harmonie.
Pour la harpe,
ouais.
Oui, c'est ça. C'est plutôt le geste musical et le ressenti à travers ça.
Thank you.
Paul, pour toi, donc tu es élève à Issoire, à côté de Clermont-Ferrand. Tu as pu découvrir comment improviser avec quelqu'un d'autre. C'était
oui, c'est ça, Lison.
Surtout avec les autres, avec Lison ou avec Ravel?
Surtout avec Lison.
Ça s'est passé comment?
Bah, très bien, j'ai découvert quelque chose de vraiment nouveau parce que j'ai jamais improvisé avec quelqu'un d'autre, surtout avec deux pianos. Et ça m'a permis aussi de voir le concerto de Ravel autrement parce que au début j'avais juste écouté la version orchestrale.
Oui.
Et le fait d'improviser dessus, ça m'a permis de plus apprécier le morceau.
Plus apprécier, ça veut dire aussi de l'apprécier en termes de couleur, en termes de...
Oui, c'est ça.
Par exemple.
Par exemple.
D'accord. Nathanaël, tu es élève, toi, à Saint-Denis. Le compositeur, tu dis, t'aide à éclairer ce que tu as envie de faire au piano.
Oui, totalement.
C'est-à-dire que tu découvres tes envies pianistiques par la partition que tu es en train de plus ou moins démembrer.
Bah, cette partition m'a permis de découvrir des styles nouveaux que j'ai envie de retrouver ailleurs dans d'autres morceaux, par exemple.
Et ce serait quoi le style que là, par exemple, on a entendu et que tu pourrais réimporter ailleurs?
Ce serait, par exemple, dans le morceau, il y a eu pas mal de passages comme avec l'accumulation, par exemple, des notes et du tempo, etc. Et je pense que j'aimerais bien retrouver un morceau du même style où il pourrait y avoir une accumulation...
Lison, autant on a deux Lisons, toi tu es prof à Saint-Denis donc, et tu as pris en charge un outil pour communiquer entre Saint-Denis et Clermont qui est un Padlet.
Oui.
Que tu as intitulé le Padlet qui révèle Ravel.
Tout à fait.
Donc c'est une espèce de jeu de mots mais qui suggère un rapport entre revisité et révélé. Donc ça voudrait dire que ce qu'on va entendre, la version revisitée de Ravel, nous révèle ce que l'original nous avait caché.
Ah oui, c'est très bien dit. Je ne sais pas comment rebondir, c'est si bien dit.
Qu'est-ce qu'on va entendre, qu'on n'entendait pas dans la version originale?
Oui, c'est une manière, le revisited ou revisited, ou revisited, ou qui ravel, je ne sais pas. C'est une manière de sortir les aimants de la pièce, comme disait très bien Cataline. Et moi, ce que je trouve beau, c'est qu'ils se les sont appropriés.
Ouais.
Et donc, dans la révélation, on part aussi du point de vue de l'interprète. Et plutôt que de dire qu'on a une manière de vous jouer Ravel qui est tout à fait différente, personne n'a jamais entendu ça, ce serait plutôt de mettre l'interprète du coup au centre de ce morceau que vous allez entendre. Et c'est en fait leur version à eux de ce qu'ils ont retenu de cette pièce et du coup comment est-ce qu'ils la jouent, comment est-ce qu'ils se l'approprient et comment est-ce qu'ils la retranscrivent. Je ne sais pas si on peut parler de retranscription, je ne sais pas si c'est très juste, mais...
De restitution, sinon.
Restitution,
de restitution d'un chemin dans l'œuvre.
C'est ça. Et du coup, ce point de vue de l'interprète, là, il est complètement... complètement visible. C'est plutôt ça la révélation, peut-être, ouais. Voilà.
Alors, avant d'écouter, peut-être un mot, Yanis Belkacem, toi, tu avais déjà revisité Petrushka de Stravinsky dans la première édition de la Biennale de Biennaux Collectif. Mm-hmm. Donc, tu es rompu à l'exercice. On peut dire que tu as progressé dedans, que tu as justement des révélations à nous faire sur ce que c'est que revisiter, à force de le faire.
En fait, comme ça a été dit, c'est vraiment essayer de s'imprégner des caractères qui sont itinérants à l'œuvre, qui est la référence. Alors là, en l'espèce, sur le concerto de Ravel, c'était aussi de... poser des mots, c'est-à-dire notamment sur le troisième mouvement, le caractère burlesque, essayer de se mettre un peu. Aussi le caractère assez fanfaronnant, je sais qu'il y a des, c'est son terme qui revenait assez souvent. Donc, oui, voilà en fait.